hasard. On se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
C'était Jacques Brel, la chanson des vieux amants. Vous êtes toujours à l'écoute de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. Et aujourd'hui, nous ouvrons notre dossier sur la ménopause ou plus largement sur la vie des femmes à 50 ans. 50 ans, une étape dans notre vie de femme. D'une part, qu'on le veuille ou non, notre corps se transforme dans cette période. Et d'autre part, c'est aussi une période où surviennent de nombreux changements. Les enfants partent de la maison, parfois nos parents décèdent ou encore au niveau professionnel, les choses se modifient. Lorsque nous avons commencé notre enquête, nous nous sommes tout de suite rendus compte que ce moment était différent pour toutes les femmes. Donc il est bien entendu qu'aujourd'hui, nous allons évoquer cette question, mais nous n'allons pas faire quelque chose de tout à fait exhaustif. Nous n'avons pas non plus l'intention de faire que la ménopause, de parler de la ménopause en tant que problème, mais de la ménopause en tant qu'étape de la vie des femmes. Alors nous avons rencontré plusieurs femmes, nous en avons gardé deux témoignages. Nous avons également demandé l'avis à Rosangela Gramoni du Centre de santé des femmes Rosa Canina, ainsi que l'avis de Françoise Cobre, psychologue à l'école des parents. Et nous sommes en direct avec Paulette Bénet, qui est éducatrice en éducation sexuelle dans les écoles, et qui est elle aussi qui a 61 ans, je crois.
Oui.
Et deux enfants. Et donc, on profite de ta présence pour que tu peux allier ton expérience professionnelle et personnelle dans ce sujet. Donc, aujourd'hui, la ménopause, la cinquantaine, a une question qui vous intéresse. Donc, vous pouvez toujours nous téléphoner. Si vous nous écoutez en direct et qu'il est mercredi matin, 10h, vous nous appelez au 023 50 40 51 41. Et si vous nous écoutez en différé et qu'il sera mercredi après-midi, vous nous écrivez, bien entendu, car votre témoignage nous intéresse. Remue Ménage, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205, Genève. Donc, la ménopause, il ne s'agit pas d'en faire un problème, c'est une étape de la vie.
Oui, c'est sûr. C'est une étape de la vie au niveau de l'adolescence et au niveau de la ménopause. J'associe un peu ces deux termes parce qu'il y a quelques décennies, disons une quarantaine d'années, l'adolescence, on n'en parlait pas, ni de la ménopause. Les femmes ne s'exprimaient pas à ce sujet. Elles voyaient leur médecin lorsqu'il y avait un problème majeur qui surgissait, par exemple un cas d'hémorragie, de fibrome. Alors là, elles voyaient leur médecin parce qu'il fallait intervenir, c'était une question de vie ou de mort. Il faut aussi parler de la longévité de la vie. Autrefois, il y a une centaine d'années, 80 ans, ce n'est pas si loin de nous, les femmes n'arrivaient jamais à la ménopause parce qu'elles mouraient très souvent avant. Alors que maintenant, la longévité de vie va jusqu'à 80 ans pour les femmes, entre 75 et 80 ans. Alors, on est déjà très loin de la ménopause. C'est pour ça qu'il est très bon d'en parler.
Il est bon d'en parler. Il est bon d'en parler aussi, car on peut, comme tu l'as dit rapidement, faire un parallèle entre ménopause et adolescence. L'adolescence, on en parle aussi. Il y a de nombreux changements qui s'y passent. La ménopause, c'est la même histoire, mais enfin, plusieurs années plus tard. Tout d'abord, donc, nous vous présentons le témoignage d'une femme de 51 ans, mariée et mère de 3 enfants. Comment est-ce que vous êtes venue à songer à la ménopause?
À vrai dire, j'y songeais vraiment pas, parce que je pensais que c'était une étape de la vie qui se passait tout naturellement. Mais c'est mon médecin qui m'en a parlé et ça m'a un petit peu choquée. Parce que je croyais que simplement j'aurais plus de règles et puis que c'était fini par là. Et là, mon médecin m'a dit, mais si vous prenez la pilule, vous aurez toujours vos règles, donc il faut y penser. Mais de toute manière, ne vous faites pas de soucis, on vous traitera et on vous donnera des hormones. Et ça, ça m'a vraiment choquée. De penser que j'étais très bien et que tout, et qu'on me proposait de me traiter. Alors j'ai mis un certain temps à accepter qu'effectivement, il faudrait d'abord que j'arrête la pilule, que je vois si j'étais ménopausée, puis, à la suite de discussions avec des amis et des lectures, qu'il faudrait effectivement passer par le fait qu'il fallait prendre des hormones et prendre quelque chose pour s'aider.
Donc à ce moment-là, vous avez commencé à lire, vous avez commencé à discuter. Est-ce que ce passage de la cinquantaine, comme on dit, a pris une autre dimension ?
Oui, j'ai commencé à lire et à discuter. Effectivement, ça m'a ouvert d'autres horizons à ce niveau-là. Mais ce que je trouve surtout, c'est que la ménopause vous indique de façon précise que vous vieillissez. Et pour moi, au fond, c'est plutôt ça. En tout cas, pour l'instant, physiquement, j'ai aucun problème. Mais je crois que quand même, le plus dur, c'est peut-être bien que ça vous indique que ça y est. Cette fois, on est de l'autre côté, on passe sur le versant qui redescend.
Et est-ce qu'au niveau social, vous ressentez le besoin de vous redéfinir ? Justement, d'être mis un peu petit à petit au banc de la société ? Enfin, pas de la société, mais de la vie.
À vrai dire, jusqu'à maintenant, j'ai pas pensé à ça, puisque je travaille et que j'aime bien mon travail, et qui va continuer. Enfin, apparemment, jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème de travail, donc j'ai l'impression d'être utile quelque part.
Et dans la relation avec vos amis, votre entourage ?
J'ai toujours les mêmes amis depuis bien longtemps. On en a, je dirais qu'on a une dizaine d'amis vraiment, et qui sont dans le même cas que moi, donc ça ne change pas grand-chose.
Et puis c'est une période qui correspond aussi, les enfants partent de la maison, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment.
Oui, ça c'est en dehors de la ménopause. C'est vrai que cette ménopause vient au moment... C'est peut-être ce qui est difficile pour certaines, c'est que justement les enfants sont partis. C'est peut-être aussi le moment effectivement où on a moins besoin de nous dans la vie active. Et c'est le moment où tout indique qu'on vieillit. Alors peut-être que ça c'est difficile, mais si on a un travail qui nous convient et qu'on n'envisage pas de perdre, je crois que c'est un bon... Et si on a bien accepté le départ des enfants aussi, c'est peut-être aussi ça, c'est d'arriver à bien accepter le départ des enfants. Et au fond, moi, j'ai été plutôt contente du départ des enfants parce qu'ils l'ont fait dans de bonnes conditions. Ils sont partis quand ils voulaient, sans dispute avec nous. Et ils reviennent souvent, ils sont toujours très contents de venir. Nous sommes très contents quand ils viennent, parce que ça fait des soirées gaies, animées, amusantes. Et puis le rapport entre eux et nous ont un petit peu changé depuis qu'ils sont partis. On a des rapports d'adulte à adulte, alors qu'on a plus de petits problèmes quotidiens et matériels. Range ta chambre, t'es rentré trop tard, pourquoi tu... Bon. Alors ça a disparu et je trouve que le rapport avec les enfants est très agréable une fois qu'ils sont partis. Donc si on le prend bien de ce côté-là...
Vous avez l'impression qu'au niveau de votre vie de couple, les choses vont changer ?
À cause de la ménopause ?
Oui.
Pas du tout. J'ai pas du tout... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. Ce qui a changé, c'est justement quand les enfants sont partis. C'est qu'on s'est retrouvés à deux. Et au fond, c'était très agréable de se retrouver. Parce qu'avant, tous les repas, il y avait les enfants. On ne discute pas la même chose, on les écoute. Et maintenant, ben, c'était tout à coup que nous deux. Et au fond, on n'a jamais vécu que nous deux, ou presque. On n'a vécu qu'une année tout seul. Alors maintenant, on vit tout seul. Et c'est assez formidable.
Vous avez l'impression d'avoir de nouveaux projets, de vous être fixé de nouveaux buts
Ensemble?
Oui, ensemble, ou vous, toute seule. Parce que justement, vous m'avez dit avant, bon, maintenant, cette ménopause, en fait, ça nous dit clairement, tu vieillis. Alors, et c'est un peu la descente, on commence à vieillir. Donc, on pourrait imaginer que petit à petit, on abandonne les projets qu'on s'était fixés, ou on en fait moins.
Non, alors je ne crois pas. C'est-à-dire que moi, j'ai recommencé la gymnastique vraiment avec... Moi, j'ai d'abord un peu hésité, je ne savais pas ce que je voulais faire. Maintenant, je fais de la gymnastique, je suis très contente de ça. Je crois que c'est un point tout à fait positif.
Donc, vous l'avez
d'être
fait,
obligée. Bah,
vous aviez crainte que, justement, votre corps se déforme plus que...
Oui, il y a aussi cette crainte de l'ostéoporose, là, cette dégradation des os. Et au fond, c'est peut-être ce qui nous force à s'occuper de notre corps. Et je crois que c'est bien qu'on s'occupe de notre corps, parce que c'est comme ça qu'on vieillira bien. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Mais autrement, non, mon mari et moi... On a plutôt envie de faire des voyages, justement, parce qu'on n'a plus d'autres contraintes.
Et puis, au niveau de vos relations sexuelles, vous avez l'impression que vous craignez une dégradation ou plus du tout d'envie?
Non, en fait, je crains rien. Moi, il me semble que pour l'instant, rien n'a changé, donc je vois pas pourquoi je me mettrais martel en tête. Tant que ça reste satisfaisant pour lui et pour moi, je vois pas pourquoi je... J'irais me dire que peut-être dans quelques temps ça n'ira pas.
Qu'est-ce qui vous a paru le plus important? Justement, vous avez été chez le médecin et tout d'un coup il y a une réalité qui vous est apparue. C'était de discuter avec vos amis.
Je sais pas très bien ce qui était le plus important. D'abord, je me suis dit non, moi alors. Il n'y a rien à faire, je vais arrêter la pilule quand j'aurai 50 ans. Donc maintenant, j'ai arrêté, mais je vais arrêter la pilule et puis je verrai bien ce qui se passe. Je veux pas... J'étais sûre que je ne me ferais pas traiter, que je ne prendrais pas d'hormones ni rien du tout. Et puis, il s'est trouvé que mes amis étaient un peu dans le même cas que moi. On a commencé à discuter. Beaucoup ont lu passablement de livres et de parler aussi avec mon médecin, finalement, m'est apparu que je faisais tout à fait fausse route. Donc il fallait quand même s'occuper de ça et qu'il fallait quand même prendre en main et savoir ce qu'on voulait faire avec ça.
Actuellement, lorsqu'on regarde les publicités et tout ce qui nous entoure, c'est toujours des femmes jeunes, des femmes belles. Il y a aussi tout le problème de la séduction.
Oui, je crois que ça compte beaucoup pour certaines femmes, mais disons que oui, pour moi, je ressens pas ça très bien. Mais par contre, j'ai lu quelque chose là-dessus, c'est qu'il faut absolument prendre conscience qu'on est toujours séduisante, mais pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord tâcher d'être de bonne humeur, agréable à regarder dans le sens que on peut toujours s'arranger un peu, se coiffer, s'habiller, sans...
Ne pas se négliger.
Et puis, je crois qu'on doit maintenant apprendre à séduire. Et là, je ne parle pas tellement d'amour, mais je veux dire séduire les gens en général par notre attitude, notre sourire, par notre intelligence ou les lectures que nous faisons ou... Chacune peut-être va trouver ce par quoi elle va séduire.
Que c'est pas qu'une question de beauté.
Ça n'est plus, en tout cas pour nous, on peut plus tellement compter dessus.
Plutôt une question de rayonnement.
Voilà, de rayonnement intérieur. Et je crois que si on a soi-même bon moral, qu'on est de bonne humeur, qu'on aime la vie, c'est déjà une bonne chose et les gens, les interlocuteurs le ressentent certainement.
Mais c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en nous parce que justement, il semblerait que c'est un moment dans lequel on ne cherche pas tellement, soit dans notre entourage, soit dans ce que la société nous propose, à nous mettre en valeur.
Non, c'est vrai que effectivement, la société ne nous aide pas tellement à nous mettre en valeur. effectivement, on doit le prendre en nous. Mais savoir qu'on a, je crois que toute femme a quelque chose à donner ou à... Oui, à une séduction en elle qu'il faut qu'elle trouve et qu'elle fasse ressortir.
Ménopause, nous entendions le témoignage d'une femme donc de 51 ans qui a deux enfants qui nous parlait comment elle s'est tout d'un coup vue obligée de penser à cette question, que les choses ne se présentaient pas comme elle l'avait imaginé. Nous, pour notre part, donc, nous avons demandé à Rosangela Gramoni du Centre de santé des femmes Rosa Canina à Genève de nous décrire le processus physiologique de la ménopause.
Alors, les principales transformations physiques qu'on ressent, disons d'abord en pré-ménopause, hein, parce qu'on ne passe pas comme ça de la vie fertile. Enfin, bon, il ne faut pas oublier que le cycle menstruel, sa finalité, c'est d'être enceinte et d'avoir un enfant. Hein. Donc, la chose qui va changer principalement, c'est qu'il n'y aura plus cette possibilité. C'est ça. Et c'est assez normal parce qu'à un certain moment, au bout de 35 ans de vie fertile, si on veut, de cycle, le corps, l'organisme vieillit, et puis la femme ne va plus être, je dis, au niveau physique, capable d'avoir un enfant, d'être enceinte, de le porter, de le nourrir, de l'élever, puisque contrairement à d'autres animaux, dans l'espèce humaine, l'éducation, ça dure pas mal de temps. Donc c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, ça s'arrête. Sinon, ce serait la fin de l'espèce, quasiment. Bon. Alors, ce phénomène se produit au bout à peu près de 35 ans de vie fertile, ce qui est quand même peu pour rapport à toute la vie possible, hein, de longueur. Donc, c'est qu'un phénomène parmi beaucoup d'autres. Il ne faut pas voir ça comme la fin de sa vie. C'est la fin de la possibilité d'avoir des enfants, un point, c'est tout. Donc, ça veut dire que l'ovaire, qui est l'endroit où se produisent les ovules, l'œuf, vieillit et ne peut plus, va plus en donner, il s'épuise. Et puis, tout le reste va continuer à fonctionner. C'est-à-dire, par exemple, les messages que vont donner hormonaux, que l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont des glandes dans le cerveau qui règlent le fonctionnement de cet ovaire, vont continuer à produire des hormones, mais l'ovaire ne va plus répondre. Parce que l'ovaire a épuisé ses follicules. Les follicules, c'est l'endroit où l'ovule grandit. Donc ça va avoir un certain nombre de conséquences qui vont être différentes en intensité, surtout d'une femme à l'autre. Et ça va aussi pas mal dépendre dans quel contexte psychologique et social la femme se trouve.
Quelles sont les principales conséquences?
Alors, au début, il va y avoir des fortes irrégularités, fortes. Ce n'est pas toutes les femmes non plus qui le ressentent, du cycle. Parce qu'il y a un dérèglement hormonal qui se produit à un moment donné jusqu'à ce qu'on réatteigne un nouvel équilibre. Alors c'est un peu comme dans l'adolescence, c'est une période où il y a des changements hormonaux importants et ça fait des instabilités dans le cycle, aussi dans l'humeur, enfin dans beaucoup de choses. Mais après on a réatteint un nouvel équilibre. Donc c'est une phase transitoire, hein, la préménopause et la ménopause. Et ce qu'on peut remarquer, donc, c'est une irrégularité dans les règles. Il va y avoir soit des règles très, très abondantes ou bien presque nulles, des cycles totalement irréguliers, on va sauter quelques mois, après ça revient, puis ça repart. Et puis pour d'autres femmes, elles ont leurs règles comme ça, normalement, et puis un jour, elles n'ont plus de règles, et puis voilà. c'est fini. Donc ça, il y a des, vraiment des manifestations très différentes pour, d'une femme à l'autre. Hein. Alors, une autre chose qu'on peut remarquer, qui est très courante, enfin, toutes les femmes, dont toutes les femmes ont entendu parler, c'est les fameuses bouffées de chaleur. Alors là, il faut déjà dire que pas toutes les femmes expérimentent des bouffées de chaleur. Puis il y en a qui en ont un petit peu, mais ça les gêne pas du tout dans leur vie quotidienne. Puis d'autres en ont des vraiment très très violentes, très fortes, qui les empêchent de dormir. Donc on rentre dans un cercle vicieux de fatigue qui ne fait qu'augmenter le problème de la bouffée de chaleur, qui est aussi provoquée par... elles ne surviennent pas non plus n'importe quand. Elles surviennent souvent aussi à des moments où on est très stressé, des choses comme ça. Il y a des facteurs un peu déclenchants de ça. Alors la bouffée de chaleur, c'est aussi un petit peu une caractéristique de l'époque de la préménopause. Hein, ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques années. Hein, ça, c'est aussi très variable. Donc il n'y a pas un modèle de ménopause.
Et lorsque donc on atteint cette période où on commence à ressentir des bouffées de chaleur ou bien des irrégularités dans nos règles, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, il y a certaines femmes qui, évidemment, pensent que la solution vient de l'extérieur. Alors, elles vont aller voir leur médecin, elles vont parler de leurs problèmes, et puis, il y a fort à parier que le gynécologue va leur conseiller de prendre des hormones. Et là...
Quelle est l'action des hormones ?
Eh bien, ce sont des œstrogènes qui suppléent aux œstrogènes que l'ovaire sécrète de moins en moins. Mais il ne faut pas croire qu'une femme en préménopause, et même après la ménopause, je veux dire, ne va plus avoir d'œstrogène du tout. Pas du tout, ça ne se passe pas comme ça, parce que les surrénales continuent à en sécréter un peu, les ovaires aussi. Et une chose importante, c'est que les androgènes, ça c'est des hormones masculines, mais que les femmes sécrètent aussi, parce que les êtres humains, que ce soit les hommes ou les femmes, sécrètent les mêmes hormones, simplement en quantités différentes. Donc les hommes vont avoir plus d'androgènes et puis peu d'œstrogènes, et pour les femmes ça va être l'inverse. Hein, donc c'est pas les androgènes pour les hommes et les œstrogènes pour les femmes. On retrouve ces deux types d'hormones dans les deux sexes. Et ces androgènes que les femmes sécrètent se transforment dans les tissus graisseux en œstrone, qui est un des œstrogènes, parce qu'il y a plusieurs œstrogènes, et qui fait qu'on continue à être des femmes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est ménopausé que tout à coup on devient un homme.
Donc lorsqu'on prend des hormones,
on remet artificiellement, si on veut, des œstrogènes qui ne sont plus sécrétés dans les mêmes quantités que durant les 35 ans environ de la vie
fertile. Et cette prise d'hormones devrait supprimer donc les effets désagréables de la ménopause.
Voilà. Alors, en particulier, les bouffées de chaleur. Et puis, il y a une chose qui se produit aussi avec la ménopause et qui est aussi variable d'une femme à l'autre et aussi qui dépend de son bien-être psychologique, physique, de sa sexualité. Hein, c'est un petit peu la fonction fait l'organe dans le cas précis. Je vais m'expliquer parce que ça n'a pas l'air très clair. Les œstrogènes ont aussi comme fonction de nourrir les tissus, un peu. Les muqueuses en particulier et la muqueuse vaginale. Alors, avec la ménopause, après la ménopause, dans les années qui suivent, la muqueuse vaginale peut devenir de plus en plus mince, de plus en plus sensible. Donc, elle saigne facilement, par exemple, lors des rapports sexuels. Comme ça, elle est sèche, plus ou moins sèche. Et ça peut être très désagréable pendant les rapports sexuels. Mais là, on a aussi remarqué les femmes qui ont une vie sexuelle active, régulière... Eh bien, elles ont ce phénomène, elles ressemblent beaucoup moins à ce phénomène que d'autres femmes qui avaient déjà une vie sexuelle très, pas très suivie, pas très active. Alors là, les œstrogènes peuvent suppléer à ce fait que cette muqueuse devienne beaucoup plus mince, un peu dite atrophique, quoi. Elle manque de nourriture, si on peut dire. Mais là, de nouveau, c'est très variable d'une femme à l'autre. Hein. Certaines ressentent ce phénomène très fort, d'autres moins.
Donc ça, c'est une alternative, aller chez son médecin, qu'on nous prescrive des hormones. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Il y a d'autres possibilités. Je crois que vous allez donner un petit peu des références de livres. Et dans ces livres, on peut voir quelles autres choses on peut faire, entre autres au niveau plutôt alimentaire, hein, pour avoir un corps qui reste en bonne santé. Bien nourri dans tous les sens du terme. Mais Je dirais que ça dépend un petit peu le contact qu'on a avec son gynécologue. Parce que c'est sûr que les gynécologues ont un peu tendance, à la place de la discussion, de donner des médicaments. C'est beaucoup plus facile, c'est plus rapide. Mais ce n'est pas complètement inoffensif. Hein. Si c'était de l'eau du robinet, il n'y aurait pas d'effet. Donc, c'est sûr que les hormones peuvent être intéressantes dans certains cas, surtout quand il y a des effets très, très violents, hein, qu'on sent très fort. Mais c'est aussi, elles peuvent être aussi assez dangereuses à long terme, surtout. Alors, est-ce qu'on va prendre ces hormones toute sa vie? Est-ce qu'on va les prendre juste quelques années? Comment va se faire le sevrage? Parce qu'un espèce de sevrage d'œstrogènes. D'ailleurs, tous ces phénomènes désagréables sont dus à un espèce de sevrage des œstrogènes. Et plus la ménopause est brutale, plus les signes sont violents. Et même les femmes, donc, qu'on opère, on enlève les ovaires, elles ont des signes très très violents, parce que c'est très rapide. Mais bon, si ça se passe beaucoup plus long, sur un plus long temps, il y a une espèce d'habituation du corps, donc on aura des effets moins violents. Hein. Mm-hmm.
Quels sont les effets secondaires donc, des hormones?
Alors, pour certaines femmes, il y a des maux de tête, elles se sentent gonflées, elles se sentent mal dans leur peau, puis pour d'autres, elles se sentent très bien. Je veux dire, il n'y a pas une réaction unique à un médicament. C'est pour ça que je pense qu'il faut lire un petit peu des livres où on vous donne le pour et le contre, voir un peu ce que vous risquez. Parce qu'en plus, avec les œstrogènes, ce qu'on risque à long terme, c'est un cancer de l'endomètre, c'est-à-dire c'est la muqueuse utérine, hein, l'endomètre. Parce que les œstrogènes sont des hormones qui provoquent la prolifération des tissus et des glandes. Hein. Donc, ça peut plus facilement tourner en cancer. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'en prendre? Puis combien de temps on en prendra? Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir prendre des hormones pendant toute sa vie? Hein, ça veut dire encore pendant 30 ans, au moins.
Oui.
Hein, puisque l'espérance de vie est de 80 ans, à peu près, pour les femmes. Donc, les gynécologues ont un peu tendance à en donner de manière facile, sans très bien expliquer ce que ça signifie aussi comme contrôle. Sans expliquer vraiment les pour ou le contre.
Lorsqu'on prend des hormones, quel genre, combien de fois on devrait aller se faire contrôler chez son gynécologue?
Il faudrait, je pense, y aller en tout cas deux fois par an. Hein. Et plus juste le contrôle annuel. Parce qu'il ne faut pas, même si vous faites votre contrôle annuel, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et ce n'est pas le même que le cancer de l'utérus, hein, de l'endomètre. Hein. Donc on ne dépiste pas forcément un cancer de l'endomètre en faisant le dépistage régulièrement, une fois par année, du col. Ce n'est pas la même chose. Hein. Donc il ne faut pas se croire à l'abri. Et en plus, bon, je veux dire, c'est un dépistage. On dépiste des choses qui existent déjà. Hein. Mais bon, si on les prend tôt, on a plus de chances de s'en sortir. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Enfin bref, c'est pas simple, hein. Je veux dire, c'est un problème un peu complexe, mais je crois qu'il ne faut pas simplement remettre sa vie dans les mains d'une autre personne, en l'occurrence gynécologue, sans avoir un peu un esprit critique. Est-ce que le gynécologue, lui, s'il devait prendre pendant 30 ans des hormones, il le ferait? Hein, c'est une question qu'on peut se poser. Mais par contre, au niveau de l'ordonnance, ils sont très... très facile. Et puis, c'est un immense marché. Il ne faut pas se cacher que les industries pharmaceutiques ont intérêt à vendre le plus d'hormones possible. C'est un énorme marché. Donc, après la pilule, si les femmes continuent avec les autres hormones, c'est tout gagné pour eux. Donc, il y a une publicité, il y a un pouce là-dessus d'une manière très forte.
Donc, c'est une possibilité, une alternative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, tu nous as dit l'alimentation.
Alors, il faut voir pour quel moment, parce que l'après-ménopause et la ménopause, ça ne va pas être tout à fait pareil. Ce qui peut être désagréable, c'est les bouffées de chaleur, hein, par exemple. Alors là, il y a 40 000 trucs, et il y a un bouquin qui s'appelle « La ménopause réussie », je crois que Marianne va donner la référence, oui. Qui donne des trucs que beaucoup de femmes, que des femmes ont donné, expérimenté. Alors, il y en a des dizaines, alors je ne vais pas comme ça les énumérer, de toute façon, ça ne sert à rien, mais ça vaut la peine de les lire, puis peut-être d'en trouver soi-même, pour soi-même. Hein, parce que son propre Le meilleur expert, ça va être soi-même là-dessus. Et donc, un peu développer son imagination à ce niveau-là. C'est important de faire de l'exercice physique. Et ça, c'est, bon, mais c'est valable pour tout le monde, je veux dire. Mais on a un peu tendance à se laisser aller, surtout si on a des métiers un peu sédentaires. Et ou bien si on s'occupe du ménage, mais qu'on a, bon, c'est déjà c'est l'exercice, hein, le ménage, hein, on est d'accord, c'est même ça peut être assez bien. Mais faire d'autres choses qui peuvent nous faire plaisir, c'est aussi bon au niveau psychologique et ça améliore de toute façon la situation générale. Ça c'est sûr. Et puis peut-être apprendre à se relaxer, parce que beaucoup de femmes se sentent toujours responsables de tout, donc toujours sous tension. Et apprendre peut-être à se relaxer, je ne sais pas, en faisant de Tony ou de la sophrologie ou bien du yoga. Enfin, trouver quelque chose qui plaise. Hein. Donc, peut-être qu'il faut essayer plusieurs choses avant de trouver ce qui va nous convenir. Ben, ça, c'est très bien aussi pour arriver à passer par les petits moments désagréables. Mais bon, la ménopause, c'est une petite partie, disons, qui aurait à voir avec le domaine médical. Et puis, c'est une énorme partie sociale. La ménopause, c'est l'adolescence, on n'en fait pas tout un plat. Hein. Et c'est aussi des changements physiques importants. Et ben, la ménopause aussi, c'est aussi des changements physiques. C'est une période de transition à ce niveau-là, mais elle se situe dans un contexte social. Et c'est le contexte social qui est beaucoup plus défavorable à l'époque de la ménopause qu'à l'époque de l'adolescence.